Radio Campus Lille, il est 18h. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Heureusement en France sur les ondes de Radio Campus Lille 106,6 FM et DAB+ pour parcourir ensemble une fois de plus. Comme tous les dimanches de 18h à 19h, l'actualité geek et ludique, nous sommes trois pour animer cette émission. Il y a moi-même François, je suis accompagné de Reynald.
Bonsoir à tous.
Et de Dominique.
Salut tout le monde.
Nous avons encore l'honneur, une fois de plus, de recevoir un ami parmi nous que nous accueillons à chaque fois qu'il y a cette nouvelle édition de ce grand salon. Et oui, je dis grand maintenant. Greg de la Forge Ludique est avec nous aujourd'hui. Salut.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. On va parcourir en détail ce salon qui est le Hammer Time, qui aura sa nouvelle édition. Alors, c'est très prochainement.
Alors c'est le 22 et 23 octobre à Lille, à la salle du gymnase, place Sébastopol. Donc ouverture au public dès samedi à 10h jusqu'à 20h et du lendemain, même horaire, 10h, 18h du dimanche. Voilà.
Et c'est entrée ?
Alors l'entrée, ouais, c'est une entrée au chapeau, c'est-à-dire que les gens donnent ce qu'ils veulent. Donc le terme gratuit, bon, si vous n'êtes pas en capacité, si vous êtes juste curieux, vous pouvez venir voir, vous pouvez payer en sortant, c'est ce qu'on appelle une entrée au chapeau, vous donnez ce que vous voulez.
Et la sortie au chapeau aussi.
La sortie au chapeau aussi, ouais. Ouais. Non, l'idée en fait étant sur ce salon de faire découvrir la passion du jeu à un maximum de néophytes, il ne paraissait pas adapté de réclamer un billet d'entrée en fait, voilà. C'était l'ordre d'idée premier, c'était ça, c'était d'aller vers le public néophyte. Quand on demande à s'acquitter d'un droit d'entrée, on se dit ben, la curiosité peut être freinée. On essaye de maintenir ça, même si économiquement c'est de plus en plus dur.
Or, comme c'est situé vraiment en plein milieu de Lille, il y a quand même quelques curieux qui passent devant, se disent tiens, c'est quoi ces couleurs orange et bleu qui tapent à l'œil comme ça, et je vais pointer un peu la tête, et c'est vraiment une immersion dans un domaine qui n'est pas forcément très connu des gens, puisqu'ici c'est vraiment le jeu de figurines et aussi un peu le jeu de plateau qui se mélange. Et c'est vrai que bon, c'est souvent réservé à beaucoup de personnes qui sont spécialisées dans le domaine, mais on s'aperçoit que les gens s'initient assez rapidement cet univers.
En fait, on s'aperçoit au fur et à mesure des éditions que le jeu de figurines, contrairement au jeu de plateau, en tout cas pour le jeu de société classique, les gens sont rapidement freinés d'abord par l'investissement financier parce que c'est un projet en fait, se lancer sur un jeu de figurines. Ça va demander un investissement autre que simplement lire les règles. On va vous demander quand même un effort de modélisme potentiellement. Donc il y a tout un process. On va dire que c'est un projet presque sur une année, une fois que vous rentrez dans ce système-là, mais qui apporte une satisfaction qui est très différente et une gratification aussi différente. Donc l'intérêt d'aller montrer comment on y joue et d'arriver au résultat en disant, voilà, ce chemin un peu long dans lequel vous allez vous lancer amène à ce plaisir ludique-là. Et de fil en aiguille, on se rend compte qu'on arrive à convaincre les plus jeunes de lâcher un peu leur console, d'aller vers une activité artistique, et peut-être de jouer aussi en famille à quelque chose qui soit, entre guillemets, un élément fort qui va se durer sur une année. Alors, et en plus de ça, aujourd'hui, on est aidé par l'actualité geek, entre guillemets, aidé par les séries, voilà, le Seigneur des Anneaux, dès que vous faites une table, le Seigneur des Anneaux, bon, tout de suite ça parle aux plus jeunes. Quand vous expliquez un peu par quoi il faut passer la phase modélisme, et que les parents se disent « Oh, mais moi, il lâchera pas la console », et que vous emmenez les gamins à l'atelier peinture du Hammer Time, justement, et que vous voyez qu'ils restent là pendant une heure et demie scotchés à peindre des wargs, des uruks, les différents cavaliers du roman, je peux vous assurer que on multiplie les passions, et je pense qu'on sème au bon vent, quoi. Voilà, on plante les germes de la passion du jeu de figurines, ça passe aussi par là, quoi. Voilà.
Alors, nous avons une tradition dans l'émission, c'est de demander à notre invité un peu son parcours initial dans son domaine. Sauf que on suit le Hammer Time depuis sa première édition, ouais. Ici c'est la quatrième, donc on t'a déjà posé la question de la fois, ce qu'on ne va pas refaire pour cette émission.
J'étais pas présent à toutes les sessions, hein. J'avais envoyé des émissaires pour représenter le Hammer Time, mais oui, j'ai déjà fait l'exercice deux fois.
Alors, du coup, on va un peu modéliser cette question autrement. Quels événements, quels jeux t'ont marqué cette année? Un peu comment est-ce que tu as vécu cette année depuis l'année dernière? Est-ce qu'il y a tout d'abord peut-être des jeux qui t'ont marqué, des petites sorties dans cet univers de la forge ludique?
Alors, au niveau de l'association, il y a des projets qu'on appelle fédérateurs, c'est des éléments qui vont amalgamer... qui vont regrouper un gros nombre de joueurs. Cette année, on est sur une sortie d'une des majors de la figurine qui s'appelle Games Workshop, qui a sorti un opus qui s'appelle Horus Heresy.
J'ai cru que tu allais dire Blood Bowl Dungeon, mais non.
Non. Mais Horus Heresy a quand même bien défrayé la chronique. Il y a des gens qui connaissent cet univers-là uniquement à travers les romans de la Black Library, qui ont tous été traduits. Donc, le Warhammer 40 000 est l'un des univers les plus connus dans la figurine après Warhammer Battle, feu Warhammer Battle, mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc aujourd'hui, Games Workshop, la grosse société, sort une déclinaison dans un univers très noir qui fait s'affronter des frères d'armes. La problématique, c'est l'aspect financier. Une fois de plus, le jeu de figurines coûte cher. Et la réponse à ça, qui nous a été donnée, c'était de passer sur de l'impression 3D. Donc il y a eu un projet au sein de l'asso, qui a mêlé 15 à 20 joueurs à peu près, où on a réduit l'échelle du jeu, non plus en 28-32 mm, mais en 8 mm. Et cette réduction d'échelle permet de faire des économies aussi importantes, et de réaliser des théâtres d'opérations très différents. Donc on a été chercher une règle alternative, il y a une production, j'en parlerai un peu dans le chapitrage impression, parce que je sais que tu m'as fait une demande pour qu'on aborde ce sujet, mais l'impression 3D est venue quand même redistribuer certaines cartes du jeu de figurines cette année. Donc c'est le gros projet dans lequel je suis en ce moment. Il y en a d'autres plus accessibles, notamment Marvel Crisis Protocol, qui lui est distribué chez Asmodee, enfin une filiale qui s'appelle Atomic Mass Game, qui est un jeu à licence, qui est assez facile d'accès au niveau des règles. Aujourd'hui, il est encore en anglais, mais c'est un anglais, on va dire, de gamer, hein, Target, Destroy, Fire, voilà. C'est pas du Shakespeare. Donc c'est les deux projets qui m'ont paru intéressants cette année. Et après, il y a une kyrielle de jeux alternatifs qui sont sortis, notamment en français, comme Mars Code Aurora, qui est quand même un jeu intéressant, puisqu'il propose à tout le monde de ressortir ses figurines du tiroir. Donc si vous êtes déjà un joueur... voilà, de différents univers, vous utilisez de la figurine, ou même si vous avez un Kickstarter qui dort un peu dans les placards, c'est l'opportunité de ressortir votre paquet de figurines et de trouver ce qu'on appelle un système. Alors j'aime bien l'expression, elle est pas de moi, un système agnostique, c'est-à-dire que la règle n'est pas liée à un type de figurine. Libre à vous d'aller chercher la figurine de votre choix pour incarner le héros, le monstre, le troufion de base de votre qui vous paraît le plus adapté. Donc vous avez la possibilité de ressortir des figurines peintes ou d'aller justement en chercher, d'avoir un prétexte pour les peindre. Donc des figurines que vous auriez un peu délaissées, je pense surtout au Kickstarter, et d'avoir là un système qui vous propose une nouvelle narration et un nouveau défi tactique. Voilà. Donc beaucoup de choses cette année, en effet. Ouais, beaucoup de choses. Voilà. Au moins trois gros projets. J'en ai un par semaine, hein, à peu près. Hein, ouais. Voilà. Donc la figurine cette année, oui, c'est vraiment l'impression résine qui est revenue redistribuer les cartes et les systèmes agnostiques. Voilà pour la nouveauté. Si on doit retenir deux éléments, c'est impression et système agnostique.
Et c'est là qui est intéressant d'être dans des associations telles que la Forge Ludique. Ça permet de découvrir forcément tous ces nouveaux jeux que tout seul ou peut-être avec un groupe d'amis réduit, vous n'aurez pas forcément la possibilité de découvrir ou d'acquérir directement, quoi.
Oui, tout à fait. Alors l'intérêt de l'environnement associatif, pour la plupart des associations, c'est de proposer, bon, au-delà de tables et néons et puis d'un créneau horaire, c'est la rencontre. C'est avant tout une aventure humaine. Le jeu de figurines, c'est une aventure humaine, c'est des rencontres, c'est aller vers l'autre. Il y a un concept que je défends, qui est un peu celui du jeu à l'anglaise, qui est de jouer avec et non pas jouer contre. Donc je joue avec quelqu'un, je ne joue pas contre lui. Surtout dans le jeu de figurines où il y a un process en dehors de la partie. C'est-à-dire que vous ne sortez pas un jeu, vous l'installez sur la table en avant. Non, c'est à quoi on va jouer. Vous en discutez avant avec lui. Il y a l'effort que vous allez faire de votre côté. Le modélisme, la construction de la table, la lecture des règles. Éventuellement, s'il y en a un qui vous paraît inadapté, pourquoi pas la réinterpréter. Tout cet environnement-là préparatoire, qu'on peut aussi trouver dans le jeu de rôle, mais qui a une autre dimension. Là, vous êtes vraiment avec. Vous êtes à part égale. Il n'y a pas un maître de jeu ou un joueur. Vous êtes à part... Enfin, chaque joueur de cette partie, ou voire de cette campagne, si elle se fait sur plusieurs batailles, est partie prenante dans la décision de ce qui va se passer sur la table. Et c'est pour moi important de dire jouer avec, parce que en cours de partie, vous pouvez très bien vous trouver dans quelque chose qui est plutôt mono-orienté, pour des raisons X ou Y, le jeu n'est pas équilibré, ça fonctionne pas bien. Et en fait, au-delà de parler de l'équilibre, qui est souvent le raccourci qu'on utilise pour le jeu de figurines, je préfère parler d'intention de jeu et de est-ce que la partie représente un défi. Si déjà, depuis votre salon, vous savez que vous avez gagné contre l'autre, il y a assez peu d'intérêt à vous déplacer à l'assaut. Le jeu de figurines, pour moi, il raconte une histoire. Si vous ne vous racontez rien, vous avez raté, vous comme l'autre, la bataille.
C'est passionnant. Je vois que Dominique et Rénal
sont suspendus. C'est un discours qui nous rappelle nos. Enfin, en tout cas, pour moi, est-ce qu'on faisait pas partie du même club avec François et Dominique, mais moi, ça me rappelle énormément de parties du club avec ce discours-là. Hein, donc, forcément, oui, c'est le avant et le après des batailles, le avant ou après des parties qu'on construisait nous-mêmes avec notre propre règles, nos propres objectifs et. Le nombre de tontes qu'on s'envoyait en disant « Toi, tu réussiras pas le tien, mais d'accord. Parce que je ferai ça. Enfin, » on avait tout comme une déclaration de guerre, de stratégie, de ruse pour voir à ce qui va prendre à l'hameçon. Si oui, peut-être que je modifierai mes troupes parce qu'ils croient que je vais faire ça. Enfin, non, mais c'est le... En plus, étant gamin, l'imagination est débordante. Donc forcément, le plaisir de se raconter des histoires. Quoi.
Exactement. Enfin, le cadre des règles est un prétexte. Voilà, il faut le vivre en tant que tel. Évidemment, il ne faut pas non plus tout décloisonner. Il y a quand même des grands chemins vers lesquels il faut aller. Mais si ce que vous faites ne vous raconte rien, vous êtes un peu à côté du sel du jeu, en fait. Vous ratez quelque chose. L'affrontement brut sur le jeu de figurines. Et c'est pour ça que, quand tu me poses la question, François, sur les associations, c'est une rencontre, en fait. C'est un lieu... C'est deux personnes qui ne se connaissent pas qui vont se rencontrer dans un lieu. Et puis derrière, il va se passer ce qui va se passer. Et donc, ça va fonctionner ou ça ne va pas passer, parce que l'intention de jeu peut être légèrement différente. Ou, au contraire, elle rentre en parfaite synergie, et là, on arrive à quelque chose qui fonctionne super bien, quoi. Donc, voilà. Et entre joueurs vétérans et nouveaux joueurs, je pense que, bon, pour notre assaut, le décloisonnement se fait assez rapidement, en fait. Voilà. Pour le peu que vous ayez la même intention de jeu, jouer avec et non pas contre. Après, le jeu compétitif au sens dur du terme représente un défi, un challenge, mais l'association de la Forge Ludique n'est pas véritablement là-dedans. Quoi. C'est pas notre, c'est pas notre fonds de commerce. Nous, notre objectif, c'est de démocratiser le jeu, c'est de tester un maximum de choses et puis de faire ce qu'on appelle entre guillemets du narratif, parce que derrière ça, on peut mettre énormément de choses. C'est de se raconter une histoire. Donc, comment on se la raconte, ça c'est encore notre débat.
Et dans cette mission de démocratisation du jeu, vous participez à beaucoup d'événements, puisque c'est vrai que nous, on se balade souvent dans les différents événements qui sont proposés d'autres personnes, et on vous y croise quand même assez régulièrement. Et alors, je l'avais déjà cité à la radio, je vais le redire aujourd'hui, je vous tire mon chapeau, puisque lorsque vous venez dans un événement, généralement, vous le faites... Je pense pas que vous vous êtes souvent rémunéré par les personnes qui proposent ces événements. Vous venez et vous offrez la possibilité aux gens de découvrir, notamment ici, la peinture figurine. Vous invitez tout le monde est le bienvenu à votre table. C'est très important parce qu'on sait souvent qu'il y a des gens qui s'assoient. On sait très bien que le lendemain, forcément, ils vont pas forcément s'initier dans le milieu. Mais vous invitez vraiment tout le monde à venir découvrir. Vous leur fournissez un peu de peinture, une petite figurine à peindre. Et on voit certaines personnes découvrir cette nouvelle passion. Et comme tu le disais en début d'émission, on surprend certains enfants qui sont peut-être turbulents ou qui ont du mal à se concentrer. Des fois, rester 30 minutes, une heure. Devant une figurine. Et je trouve ça, je suis admiratif devant le temps que vous prenez pour vous déplacer dans ces événements, que de l'énergie, de l'effort pour justement accueillir tout le monde et de faire ça d'une manière totalement bénévole. Voilà, moi je vous...
Bah merci.
Je vous franchement, je vous tire mon chapeau.
En fait, il veut ça pour une bière gratuite quand on passera, hein, t'inquiète. Hein,
alors sur le côté rémunération, bah, c'est vrai qu'on fonctionne à but non lucratif. Quand on se déplace sur une convention, on va dire que c'est un échange de bons services. Une des dernières, échange de bons services, Interasso, c'est des... Voilà, on n'a pas la possibilité d'aller partout... pour des raisons, voilà, c'est du bénévolat, donc comme il n'y a pas de rémunération, on n'est pas présent partout, on essaie d'avoir un maximum de présence pour démocratiser la FIUN, qui est le but de l'asso, en fait, quand on a déposé les statuts 1901 de la Forge Ludique, qui est la principale entité organisatrice du Hammertime. Bon, il n'y en a pas d'autres, en fait, j'ai dit principale, mais c'est la seule. L'idée, c'était de démocratiser le jeu de figurines. Et participer à d'autres événements nous paraît aussi une bonne manière de toucher un public sur lequel on n'est pas au contact direct. Nous, on est situé à Lille. Se déplacer à Quesnoy nous paraît intéressant, ou à La Bassée, voilà. Sur le grand rayon métropolitain, on a tendance à aller faire des démos de peinture. On était notamment aux 10 ans de la société TGCM qui est à La Bassée. On était à Quesnoy-sur-Dole, où on a rencontré un public, on va dire, familial, à qui on a proposé un atelier peinture, qui s'est super bien passé. Ensuite, sur l'aspect financier, c'est vrai qu'on fait repartir tous les gens qui viennent sur le stand avec une figurine. Aujourd'hui, bon, nous, comme on est des sachants, on est plutôt des experts, on a la possibilité, entre guillemets, d'aller chercher des figurines qui sont vendues, on va dire, au rabais, ou des choses dont personne n'en veut trop véritablement. Donc on rachète ça en stock, et puis c'est comme ça qu'on propose à tout le monde de repartir avec une figurine. Donc aujourd'hui, bon, on fonctionne comme ça. On a aussi un sponsoring d'une société de peinture qui s'appelle Army Painter, merci à eux. Donc c'est des pays de l'Est, je ne vais pas dire la nationalité, parce que je risque de me tromper, mais avec qui on entretient des rapports depuis longtemps, qui nous fournissent du matériel pour découvrir la peinture. C'est une société qui est plutôt orientée sur la peinture pour débutants et joueurs un peu novices. Donc ça correspond parfaitement à ce qu'on fait, parce qu'on rencontre quand même une très très large majorité de gens qui découvrent la peinture sur ces salons, quoi. Et notamment des enfants, voilà. Notamment beaucoup d'enfants. Donc notre record, c'est pas cette année, mais on a fait un week-end, on avait fait 92 ou 93, je crois, enfants. Donc là, ouais, c'était quand même très très... C'est lourd, ouais, c'est assez lourd, quoi. Ouais.
Il y avait souvent, bon, là, ça fait une heure, il y a d'autres personnes qui attendent derrière.
Ouais, c'est un peu ça, ça peut être ça l'état d'esprit. Ouais, ouais, mais bon, ça se fait dans un bon. À partir du moment où les parents sont présents, c'est surtout ça, c'est la seule condition qu'on impose. Voilà, que les parents soient à côté, on ne fait pas garderie, quoi, pour résumer.
Oui, non, mais ça fait pas une heure qu'on parle, mais on va juste citer au moins le site de l'asso, puisque effectivement c'est une asso. Vous réunissez tous les vendredis, je crois.
Alors on se réunit tous les vendredis au 77 rue Roland à Lille, qui est à côté de l'ICAM, donc de la station de métro Port Fluvial, ou Port de Lille. Et donc on a des locaux qui sont assez assez sympas. On est en partenariat avec le centre social Vauban et Kerm, avec qui, ben voilà, on entretient des relations assez étroites, puisque en plus du côté démo, peinture, etc., une partie de nos bénéfices sur le Hammertime, parce qu'on a quand même un peu de bénéfices sur le Hammertime, est reversé dans des sociétés qui viennent faire de l'animation pour le centre social. Donc là, cette année, on a été chercher des maîtres Jedi qui nous ont fait une animation pour des gamins. Ils ont fait un atelier escrime Jedi pour le centre social. Voilà.
Okay. Toutes les informations, c'est sur laforgeludique.fr, oui. Et y compris les informations sur le Hammertime. Et en plus, bien sûr, sur la page Facebook de La Forge Ludique, vous trouverez toutes les informations, les invités, le programme, comment y aller, de quelle heure, etc.
Alors, je vais te proposer un petit exercice assez inhabituel, mais qu'on adore faire dans cette émission, heureusement, en France. Nous avons plusieurs artistes, notamment français ici, qui vont nous proposer très prochainement de nouveaux albums. Et il est de notre devoir, sur Radio Campus...
On se sacrifie pour les autres.
Puisque, comme tu peux voir, il y a des casiers avec le nom des jours, et nous sommes tout en bas à droite, donc au fur et à mesure, les CD de découverte descendent dans notre casier, Et comme on aime bien les codes GNU juste après nous, on prend sur nous cette charge de découverte et d'analyse. C'est très important. Il va falloir analyser ces différents artistes. C'est un grand mot, des fois. Voilà. Alors, tout d'abord, c'est Michel Polnareff.
Il n'est pas mort, non.
On parle souvent d'albums de reprise. Donc d'accord. Michel Polnareff, lui également, a décidé de faire un album de reprise.
On n'est jamais mieux servi que par soi-même.
Voilà.
Du coup.
Donc c'est Polnareff, chante Polnareff.
Il faut que je lise, il faut à tout prix que je lise le. Enfin, c'est pas le bulletin de presse, mais presque. Donc Michel Polnareff sort son nouvel album, Polnareff chante Polnareff, le 18 novembre. Il reprend 12 de ses plus grands tubes. Bon, jusque-là, ça va. En version piano-voix, attention, c'est là qu'on s'accroche, en les épurant et en les sublimant de sa voix emblématique. Et là, ça s'aggrave. L'artiste s'autorise de vraies audaces pianistiques et vocales. Une grande modernité. On a compris. Ça va être un massacre.
Attention. Il a pris un petit coup de vieux, mais derrière les lunettes, ça ne se voit pas.
Depuis que je suis loin de toi.
Même à Radio Campus, on a des meilleurs micros, on est d'accord. Il a enregistré ça sur son iPhone. Le babyphone de son... je sais pas. Ne réglez pas votre radio. C'est le son...
Tout va bien.
C'est le son qui est pourri de base.
Il n'utilise pas d'autotune, apparemment. Alors le titre, bien sûr, Lettre à France. Moi, je salue quand même cette initiative pour pas que les autres le fassent à sa place.
Je crois que c'est ça. Je crois qu'Obispo, à un moment, c'était un peu arrogé le titre de fan officiel de Polnareff, sans le citer. Polnareff avait un peu absolument détesté. Et ok, je suis mon plus grand fan et je suis le seul autorisé à me reprendre. C'est ça, en gros.
Après, lorsqu'il il sera sous terre, malheureusement, il ne sera pas à l'abri. Hein, c'est une petite pensée, par exemple, pour Joe Dassin. Qui a décidé de reprendre du Joe Dassin, Reynald?
Tout le monde.
Moi, je pense que tout le monde, mais là, si vous parlez de Garou, par exemple.
La guitare folk ne fait pas tout. Nos excuses aux fans de Joe Dassin. Hein.
Y'a pas de Garou, non? Ne nous écoute pas,
non. C'est trop tard.
À toi, à la façon que tu as d'être belle.
J'aime bien le regard de Greg perdu dans Qu'est-ce que je fous là.
À tes montants.
Elle était si belle, cette chanson.
Quelquefois, à toi, à la petite fille que tu étais, à celle que tu es encore souvent. À ton passé, à tes
moments.
Normalement,
il y a
un moment, ça s'énerve.
Ah, tu crois?
Dans l'original.
À la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel.
Oh, petit style cowboy western.
À l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi. À moi.
Alors, est-ce qu'il y a déjà eu cette idée d'amener des groupes de musique dans le Hammer Time?
Alors, oui. Il y a eu cette idée-là, sur la première édition. Après, c'est pas évident au niveau logistique d'amener ça en plus, on va dire. En sachant qu'aujourd'hui, la salle du gymnase, on utilise l'estrade principalement pour les démos peintures. Faire un setup complet qui vaille le coup, je veux dire, pas quelque chose qui soit juste fait à l'arrache, parce que si on fait ça, on veut quand même qu'il y ait un minimum de qualité, même si la salle pourrait s'y prêter. Hein. Il y a eu cette réflexion-là sur la première édition, mais derrière, j'ai fait le choix de mettre de côté, parce que les contraintes, on va dire, qui m'étaient imposées pour le faire, étaient trop fortes. Après, sur le 2 et le 3, ça se posait pas, parce qu'on était en phase Covid, enfin, il y avait toutes les problématiques qu'on peut connaître. Là, sur celui-là, ça m'est pas revenu, puisque le Hammer Time, au niveau des espaces attribués, j'ai eu beaucoup plus de demandes que sur les éditions précédentes. Donc du coup, je suis saturé en volume. En gros, vous allez avoir 20% de plus de démos cette année. il y aura beaucoup plus de possibilités de jeu. Et donc, je suis tout écalé au millimètre, quoi. Vraiment. Alors, je pourrais faire encore plus dense. Je pourrais encore mettre des tables et des démos, etc. Mais le problème, ça se ferait au détriment du confort des démonstrateurs et des bénévoles, et puis aussi du public. Donc,
pour l'instant, parce que le public, voilà, circule et regarde aussi les tables.
Hein, ouais, oui, tout à fait. Ouais, tout à fait.
Et puis, un groupe, donc, est-ce qu'il joue pendant que ou est-ce que, comme dans certains festivals, il y a un concert qui est organisé le soir, par exemple?
Bah, c'était plus ça, l'état d'esprit. En fait, on avait louché un peu sur ce que fait le Troll et Légende, en version, c'était balbutiante, hein, parce que là, on parle de... C'est des monstres, quoi. C'est... qui eux ils ont le band et des choses comme ça. Nous on n'était pas là-dedans, c'était histoire d'inviter un groupe qu'on connaîtrait, un de nos adhérents, voire même en ferait partie. C'était ça un peu l'état d'esprit dans lequel on était. Mais c'est quelque chose qui peut ressortir. Je dis pas pour le 5, pourquoi pas, ça sera quelque chose qui reviendra. Là aujourd'hui.
Un concert dans un des nombreux cafés qu'il y a autour de Folkfest.
Il faut aussi que ça soit cohérent avec le style du salon.
Alors voilà, c'était ça. Parce que moi, bon, je connais des groupes, mais c'est pas du tout cohérent avec ce qu'on aurait pu amener. Donc bon, c'est un tout. Mais la porte est ouverte. Si quelqu'un nous écoute, pourquoi pas. Voilà.
Reprise.
Ouais. On refera un petit point reprise tout à l'heure. Tu as ramené une petite musique avec.
Alors oui, parce que je sais que vous êtes friand de toujours poser cette question, que vous ne m'avez pas posée. Et donc j'ai choisi Dead Can Dance, qui est pour moi un des groupes qui a animé la plupart de mes soirées jeux de rôle avec mon groupe d'ado, lorsqu'on faisait du Donjon et Dragon. C'était la musique d'ambiance qui nous faisait peur. Donc voilà. Donc Dead Can Dance, concert que je devais aller voir et qui a malheureusement été annulé.
Ouais, deux, trois jours avant le Hammer Time en plus.
Ouais, c'était ça. Ouais, exactement. Aïe. Voilà. Donc on leur souhaite un bon établissement. Parce que c'est un problème de santé.
Shark Dia.
Vous êtes toujours sur les ondes de Radio Campus 106,6 FM et DAB+ dans l'émission Heureusement en France. Nous recevons aujourd'hui Greg de la Forge Ludique pour parler d'un salon qui arrive très prochainement. C'est le Hammer Time.
22 et 23 octobre. Dans la salle du...
La Sébastopol. La
Sébastopol.
Salle du gymnase.
Salle du gymnase, voilà. Je pensais déjà à tous les salons qui viennent. Je vais attendre dans quelle salle. Je commence à connaître les trucs par cœur. 10h-19h. De 10h-18h le samedi et le dimanche. Entrée libre. En fait, pratiquement, tu arrives, tu peux déjà acheter des jetons pour consommer.
La partie intéressante.
Donc, ça, on ne te force pas à payer l'entrée, mais tu peux payer déjà.
Alors, on aura des goodies. Je sais que vous êtes friands de toutes les petites infos que j'additionne tous les ans. Donc, cette année, on a dit de bien prendre la mesure. C'est le mot d'ordre. Donc, on aura des ringlettes et des mètres thématiques du Hammer Time. C'est des petits goodies qui nous permettent de financer l'événement. Et on proposera ça en différentes couleurs très 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 flashy à tous les gens qui viennent sur le salon.
Voilà. Ah, l'année dernière, on avait eu droit à des beaux petits dés, je pense. Hein,
ils seront encore là, il nous en reste un peu. On écoule les stocks. Il nous en reste pas beaucoup quand même. Hein, voilà. Mais on aura les goodies éditions précédentes jusqu'à rupture. Quoi. Voilà. Là, cette année, c'est des mètres rubans et des petites réglettes en pouce qui sont dont les joueurs de jeux de figurines sont assez friands. On essaie de proposer ça à un tarif attractif. Quoi. Et puis, c'est un design fait maison. Donc, voilà. Donc ça, c'était les deux goodies. J'en ai pas oublié. Je crois qu'on est là-dessus. J'avais préparé mon petit texte parce que je sais que vous aimez
mais
bien
oui,
les
mais
nouveautés.
Que va-t-il y avoir édition du Hammer Time?
J'ai une nouvelle bière. Voilà. C'est pour ça que je parlais de jetons. Donc j'étais des jetons pour acheter à l'intérieur, pour consommer.
Pour consommer de la bière. Oui. Voilà, pour consommer de la bière. Donc je vais répondre à la question-là pour la bière.
Avec modération, mais il y a plein d'autres choses.
Absolument.
Donc pour la bière, on avait fait donc cuvée des trolls sur les précédentes éditions. Ensuite, on avait fait la Nostéke. Et puis il y avait une demande pour aller vers un brasseur local, faire un peu d'artisanat, histoire de tourner, pas toujours proposer la même chose. Donc là, on a retenu la brasserie Hardy. Et puis on proposera donc une Ambrée et une Blonde cette année. Donc voilà, donc là pour le coup on fait de l'artisanat local là-dessus. Donc au niveau nouveauté, une nouvelle bière. Voilà. Et au niveau jeu, beaucoup plus de démonstrations au niveau jeu de figurines. On aura également des gens qui vont venir nous présenter leur jeu marque. On aura notamment Kairis, qui est un jeu français. C'est une société montpelliéraine qui a monté son propre projet de jeu d'escarmouche. Ils seront là, donc vous pourrez discuter directement avec les concepteurs et les graphistes directement de ce jeu, qui, à mon avis, va faire sa place dans le monde du jeu de figurines et d'escarmouches. On retrouvera TGCM Alchemy, qui sont, on va dire, nos deux piliers du jeu de figurines français. Ils seront tous là. Vous aurez également, au niveau découverte, Tranchées et Barricades, qui est un système d'escarmouches qui vous propose d'incarner un petit affrontement au 19e. Donc ça va de Laurence d'Arabie jusqu'à réussir à prendre l'élément stratégique qui fera basculer la révolution. Donc ça, ce genre de choses.
Plus toujours dans un système d'escarmouche. Plus dans la reconstitution historique ici ou...
Alors là, on est plus sur l'affront. Alors, reconstitution, pas véritablement, parce qu'il y a le côté épique, en fait, qui vient s'installer. On est plus dans l'esprit des films, on va dire, de la Warner en Technicolor, en fait. On est plus là-dedans. Ensuite, on aura également Warband, qui est un auto-éditeur. Le gars, il est tout seul, il porte son jeu, il propose un jeu d'affrontement dans un univers post-apo que j'ai déjà testé. Pour le coup, je trouve qu'il y a un défi tactique intéressant. Ça se joue sur une toute petite carte à hexagone. Les figurines sont de toute beauté. Franchement, c'est un de mes coups de cœur graphiques, on va dire, de 2022. Donc là, vous pourrez discuter directement avec lui, tester son système et éventuellement acheter ses figurines puisqu'il vendra ça tout de suite sur le stand. Le jeu est déjà exploitable en tant que tel. Il pense aller vers un KS à terme, mais pour l'instant, on est vraiment sur une version pré-alpha. Donc l'occasion pour vous de discuter avec lui et de voir comment on peut développer sa propre règle, ses propres figurines, passer par une impression 3D.
Alors, j'en profite pour rebondir avec ce que tu disais en début d'émission. Tu parlais de reconvertir ses figurines. Ouais. De KS, donc de Kickstarter.
Ah oui, oui, j'utilise l'acronyme.
Alors, est-ce que ça sous-entend qu'il y a quand même beaucoup de Kickstarter que tu as backé, hein, donc dont
alors
tu as
moi,
participé,
je back très peu.
Et qui, où tu connais, tu as beaucoup de connaissances, qui ont des armoires de Kickstarter
ouais, ça,
non,
oui.
non
ça,
utilisées.
Oui. oui, oui. En fait, il y a eu un phénomène je vais pas dire de surconsommation, mais il y a eu un moment où les Kickstarter vous proposaient énormément de figurines pour un intérêt de jeu qui était parfois discutable. Par contre, au niveau graphique, tout était présent.
Dans le kilo plastique, comme on l'appelait avant.
Voilà, ouais, la terminologie, c'était le kilo plastique. Maintenant, moi, j'ai fait un raccourci sur beaucoup de systèmes où la carrosserie était impeccable, ce qu'on appelle la direction artistique était extrêmement léchée, la qualité des productions, parfois, était un peu en dessous de ce qu'on nous présentait, parce que entre le moment où vous avez sur un aspect visuel d'une figurine qui est un prototype, et puis la production de masse, il y a parfois des pertes. Et ensuite, il y a le système de jeu. Quel défi ludique vous propose le jeu ? Et là, l'expression, c'est je soulève le capot et je me rends compte que ma Ferrari est un moteur de deux chevaux. Et il n'y a pas grand-chose dedans, en fait. Donc vous passez peut-être une très bonne soirée, mais vous n'allez pas y revenir, en fait.
Fais les deux, trois premiers scénarios, et quand tu commences à... C'est un peu répétitif et quand tu sais qu'il y en a 30...
Exactement. Bon, il y a un phénomène de lassitude, le défi tactique n'était pas là, j'ai fait assez peu de choix, j'ai certes peut-être jeté beaucoup de dés, on a peut-être eu une interaction de je prends des points de dégâts, j'élimine des figurines, mais il manque quelque chose. Et je trouve que Kickstarter, à un moment, a beaucoup proposé ce type de jeu. Donc autour de moi, il y a pas mal de gens qui ont ce type de jeu, qui prennent des places dans leur bibliothèque énorme, et vers lequel ils ont du mal à revenir. Donc aller vers des systèmes, tout à l'heure j'ai utilisé le terme agnostique, me paraît aujourd'hui une bonne chose. Quoi.
Est-ce que c'est pas évident que ce soit ce genre de jeux qui ont eu plus de succès ou qui ont en tout cas été écoulés, dans le sens où Kickstarter, vous pouvez pas forcément mettre en avant votre mécanique, votre durabilité.
Il existe des systèmes quand même. Hein. On sent qu'il n'y a pas eu, enfin pour moi, il n'y a pas eu de volonté ferme de montrer le moteur, quoi. Voilà.
La première approche se fait sur le graphisme, quand même.
C'est
la carrosserie, comme tu dis.
Exactement, ouais. Sur la carrosserie.
Donc ça peut être Arthur sur Dune. Je connais des gens qui, quel que soit le bien de la mécanique, ils vont.
Attends, je back.
Voilà. Donc, tu vois, c'est comme quoi, derrière le titre et l'aspect graphique, c'est ça qui suscite l'intérêt. Donc quand c'est un peu austère.
Là-dessus, t'avais aussi récemment, il y a quelques années, t'avais le jeu de figurines Shadow of the Underdeep, je crois. Shadow of the Deep. Qui lui reprenait aussi en disant je vous file les règles, les figurines, trouvez ce que vous avez dans vos tiroirs, ça fera l'affaire et démerdez-vous. Quoi.
Ouais, tout à fait.
Ranger of Shadow Deep, voilà,
Ranger,
c'est sûr.
Alors Ranger of Shadow Deep, c'est une narration qui se veut presque un jeu en solo en fait. C'est presque un livre dont vous êtes le héros, solo ou à plusieurs, qui te propose d'aller chercher dans ton tiroir, globalement, tes figurines de jeux de rôle.
Ah oui, c'est clair.
Des figurines de jeux de rôle qui sont plutôt, on va dire, médiéval fantastique.
Et la narration directe fait comprendre que c'est un jeu de rôle avec
c'est un jeu de
des
rôle,
figurines.
Mais c'est ça, c'est un jeu de rôle hybride.
C'est que si
il
te manque une règle, tu l'inventes et tu jettes le dé, tu vois ce qui se passe. Quoi.
Voilà. Ouais.
Donc, on t'a coupé en pleine présentation, mais
il n'y a aucun problème. Après, il y en a d'autres. Il y a Clip and Play qui vous intéressera peut-être aussi, qui sera là, qui lui va proposer la possibilité d'avoir une table de salon dans laquelle vous allez enfermer votre jeu de plateau. C'est-à-dire que, hop, ça y est, c'est terminé, on arrête de jouer, il est l'heure. Voilà. Hop. Donc, ça vous permet de le garder en place et de reprendre la partie plus tard. Donc, lui sera présent. Et on parlait également d'impression 3D. J'aurai Torque Mini et 3D Forge qui seront présents pour vous présenter, pour le coup, un service d'impression 3D. Donc si vous n'êtes pas équipé, vous n'avez pas la possibilité d'imprimer, c'est la possibilité pour vous de rencontrer des professionnels et d'aller faire imprimer des modèles que vous avez choisis. Donc aujourd'hui, l'impression 3D est décomposée en deux grandes entités, c'est-à-dire le sculpteur 3D et puis celui qui va imprimer l'objet physique. Donc si vous venez avec un plan, vous pouvez rencontrer un professionnel qui lui va vous donner un calendrier un jeu peut être imprimé, t'as filmé à ta tête.
La technologie des imprimantes 3D, l'impression 3D évolue sans arrêt, quoi. J'ai vu une news avec une nouvelle technologie qui permet d'imprimer des résines multimatériaux. Là, ça veut dire, il y a des tas de résines et on gagne, je sais pas, c'est beaucoup plus rapide qu'avant, parce que souvent ce qui embête les gens, c'est la lenteur d'impression 3D. Et c'est en train d'évoluer à toute vitesse, quoi. Il faut s'y connaître entre les matériaux et tout. Et gérer.
Alors, moi, je suis pas un expert de l'impression résine, hein. Je suis au sein de l'asso, on a des gens qui font ça assez bien, notamment sur les projets en commun, on se partage un peu le boulot. Moi, je fais de l'impression PLA, donc à dépôt de filament, d'autres font de l'impression résine. Je sais que c'est ce qui avait beaucoup posé problème, c'était le côté émanation de vapeur. C'était surtout ça. Donc chez nous, on a vraiment on a un chimiste. Donc très clairement, il nous a donné toutes les fiches. Et moi, ça nous a quand même bien fait flipper.
Enfin, ça, il ne faut pas inhaler.
Exactement. Donc on n'y a pas été. On s'est montré très prudent par rapport à tout ça. Je pense qu'on a bien fait. Ceux qui ont de l'espace et la possibilité de ventiler font de la résine. Ceux qui n'ont pas le choix font du PLA.
Alors, du point de vue des grosses structures, on parlait tout à l'heure de Game Workshop,
oui.
Est-ce qu'il n'y a pas de leur côté un peu une frayeur face à cet engouement pour les impressions 3D? Est-ce que eux, c'est quand même leur fonds de commerce de vendre des figurines en plastique à des prix exorbitants?
La réponse aujourd'hui, elle n'est pas si évidente que ça. Parce que aujourd'hui, l'impression 3D te permet de faire de l'alternatif, de faire des économies d'échelle quand tu es, on va dire, que tu portes toi-même ton impression 3D. C'est-à-dire que si tu achètes ton imprimante 3D, si tu as tes plans, si tu t'embêtes à nettoyer ton bac, à t'embêter avec la résine, avec les problèmes qu'on vient d'aborder. Donc, quand tu es dans cette dynamique-là, c'est toi qui portes. Donc, on va dire que tu es presque à fabriquer tes figurines toi-même. En dehors des plans peut-être, mais c'est quand même, entre guillemets, hein, beaucoup d'embêtements pour arriver à un résultat qui n'a pas les mêmes propriétés physiques qu'une figurine, entre guillemets, de haut de gamme de chez Games Workshop. La figurine reste un objet de jeu. Elle est destinée à jouer. Dans de rares exceptions, c'est un objet qui va aller dans une vitrine. Si toi, tu es un peintre de vitrine, je pense que l'impression 3D est ton Eldorado. Parce que la figurine, une fois qu'elle est peinte, elle n'est pas censée être manipulée. Si au contraire, tu restes dans une dynamique ludique, de jeu, la figurine va être manipulée, elle va prendre éventuellement des coups. La résine aujourd'hui reste malgré tout quelque chose de cassant, qui vit pas bien dans le temps. Là dernièrement, j'ai un membre qui a une très belle armée en résine, les modèles ont commencé à se fendre pour un problème d'impression. Bon, croyez-moi qu'il est assez triste, quoi. Donc,
surtout après avoir passé des heures et des heures à peindre chacune des figurines.
Alors, il y a tout un tas de raisons techniques à ça, qu'on peut solutionner, mais disons que s'il avait pris, entre guillemets, un modèle commercial, certes qui coûte beaucoup plus cher, indépendamment de ce qu'il va faire avec son impression 3D, il n'aurait pas eu ces problèmes de stabilité. De surcroît, moi, une armée en impression 3D, si je fais un tournoi demain à Bordeaux, je vais avoir peur que mes figurines prennent des coups, parce que ça reste quand même cassant, alors qu'une figurine aujourd'hui qui sont massivement en plastique, enfin la plupart sont en plastique, a une très bonne résistance au choc, et ça se recolle assez facilement. Voilà. Donc, et l'impression 3D n'a pas encore ces propriétés-là. Elle y viendra peut-être. Pour moi, l'intérêt de l'impression 3D en tant que joueur, c'est de me proposer des éléments alternatifs, donc des sculptures alternatives, d'aller vers quelque chose qui répond pas. Enfin, si je trouve quelque chose qui répond pas, demain je veux un pirate de l'espace avec un holster, parce que j'ai décidé qu'il était gaucher, un bras cybernétique. Je vais peut-être pas le trouver. Derrière, il existe des possibilités assez faciles pour que cette figurine existe en plan 3D et que moi, de mon côté, je la fasse imprimer.
Et tu ne veux pas faire de conversion non plus, à perdre un week-end à découper, limer du plastique, coller.
Tu peux toujours. C'est autre chose, tu vois, c'est autre chose. La conversion, j'en ai fait énormément, même à l'époque où c'était du plomb. Donc, c'était quand même
une belle aventure. J'en ai fait aussi.
C'était une belle aventure. Aujourd'hui, le plastique permet ça, mais si tu n'as pas la pièce, bah, la conversion, entre guillemets, ce qu'on appelle le scratch build, c'est-à-dire je coupe un bras de ce personnage-là, puis je le mets sur tel autre perso, et donc du coup, l'ensemble, là, j'arrive à quelque chose qui est approchant, ou en tout cas très, très proche de ce que je souhaite. L'impression 3D, tu peux aller vraiment vers ce que tu souhaites. C'était, il n'y a pas de problématique d'échelle. Si le bras était un peu bodybuildé, que tu mets ça sur un corps de nana, bon, il y a quelque chose qui se passe. Après, pourquoi pas ? Ça peut être un prétexte à écrire une narration.
Ça peut être intéressant, parce qu'il y a quand même beaucoup de jeux assez évolutifs. On va prendre au hasard Necromunda, où chacun de tes personnages est défini différemment et évolue selon l'histoire, peut être mutilé ou autre. Là, ça peut être intéressant, bah, une fois que tu as fait ton armée, d'imprimer exactement ce que tu as, pour ceux qui sont experts dans la modélisation 3D ici.
Oui.
Mais ça peut être quand même une aventure assez sympathique à faire. Quoi.
On en a qui passent par là, on en a au balbutiement au sein de l'assaut. Il y a vraiment des gros mordus de cette démarche-là que tu viens d'évoquer. Je pense qu'ils sont précurseurs, parce qu'ils sont tellement à fond dedans que c'est quelque chose qui vont. D'autres personnes vont les suivre dans cette démarche-là. Et je pense qu'on va vers ça. Donc pour revenir à l'inquiétude initiale de Games Workshop, il y a une inquiétude, je crois qu'aujourd'hui. Ils peuvent pas s'en cacher. Pour la réponse donnée par Games n'a pas encore été faite, mais on va parler d'une autre société qui est quand même assez puissante, qui s'appelle Privateur Press, qui va sortir sa troisième version de War Machine. Eux, ils sont passés au dématérialisé. C'est-à-dire que c'est une société donc, qui a pignon sur rue, hein, qui a un jeu qui est quand même assez plébiscité, en tout cas aux États-Unis. En Europe, bon, il vit bon an mal an. Mais cette troisième déclinaison va recevoir des plans en STL que tu vas acheter directement à l'éditeur. Et à charge pour toi de les imprimer.
Du print and play.
Exactement. Voilà. Donc là, on y est. Est-ce que Games le fera ? Je ne pense pas. C'est absolument pas leur ADN. Je pense qu'ils sont dans un modèle... porté par les vétérans et de la figurine anglaise. C'est-à-dire que c'est vraiment le côté, on imprime en local, on conceptualise en local. Ils sont encore là-dedans. Est-ce qu'ils vont tourner la page ? Je ne crois pas.
Ils ont sûrement un peu peur de lâcher les bribes un peu de conception de leurs figurines au niveau, ce que nous on appelle du lore, mais plutôt de leur... de l'histoire de leur figurine et peur que ça leur échappe. Ils sont assez cadenassés le truc là.
Alors je crois que pour Games Workshop le vrai trésor c'est les univers. C'est leur développement d'univers. Le vrai trésor il est là. Vendre de la figurine, certes ça rapporte de l'argent, parce qu'on parle des marges, etc. Enfin, je peux pas tomber là-dedans, j'ai pas les bons chiffres, mais la maîtrise des univers pour Games, c'est quelque chose qui rapporte beaucoup, beaucoup d'argent. On peut même aller par extension dans le domaine du numérique. Je ne sais pas ce qui leur rapporte aujourd'hui plus d'argent. Est-ce que Warhammer Total War 3 sur PC rapporte plus d'argent que la nouvelle boîte de Space Marine ? C'est de la conjecture complète. En attendant, c'est des univers qui sont quand même détenus par Games Workshop. Donc, pour moi, ce qui fait la force de Games, ce sont ses licences. C'est pas la manière dont ils distribuent des figurines. Voilà. Aujourd'hui, voilà, le nombre de stores Games sur la place publique, ils ont pas volonté à vendre des figurines. Ils ont volonté à faire jouer les gens. Ils sont là pour vous faire jouer. Ils sont pas là pour vous vendre des figurines. Ils font aucune promo. Vous traversez la rue, vous avez un concurrent qui vous fait moins 10, moins 15. Ils sont pas là pour ça. Ils sont là pour vous faire jouer. Pour que vous deveniez joueur de figurine. Et je crois que la figurine aujourd'hui remplit ce rôle-là, elle fait rentrer beaucoup de gens par l'aspect graphique et par l'aspect modélisme dans les licences de Games Workshop. Voilà. Je crois que leur fortune, c'est ça.
On va retourner vers le Hammer Time. Le Hammer Time, c'est quand même une grosse équipe de la Forge Ludique derrière. Il y a plusieurs bénévoles.
Oui, je suis loin d'être tout seul. Hein. En fait, il y a différentes périodes. Sur le côté montage du Hammer Time, donc le côté purement administratif, financier, etc., et communication, on est 4. Ensuite, on passe rapidement à 10 sur ce que j'appelle le travail préparatoire. Donc le travail préparatoire, ben, ça va de la sandwicherie au brasseur, à la gestion de table, à l'impression 3D, parce qu'il y a quand même pas mal d'impressions 3D qui vont circuler, notamment les prix, ce genre de choses. Ça va être la gestion des vitrines, le ravitaillement du bar, enfin bref, j'en passe des meilleurs. Donc là, on est une dizaine. Le jour J, l'association est mobilisée à 95%, donc nous, on est 50%. Donc vous aurez quand même 50 personnes en orange pour s'occuper de vous, entre l'accueil, le bar, les démos, voilà, puis l'animation micro et le concours peinture, parce qu'il y a aussi un concours peinture sur la More Time en partenariat avec d'autres assos. Et puis après, ben, c'est toutes les autres assos et les autres partenaires qui viendront faire des démonstrations. Donc je pense qu'on devrait être une centaine de bénévoles en tout.
Il n'y a pas qu'un concours peinture, il y a aussi un challenge peinture.
Alors, d'actualité. Voilà, j'ai tendu une perche, merci.
Ah oui.
Voilà. Donc le challenge peinture, c'est la nouveauté de cette année. On va proposer. Alors habituellement, ce qu'on propose, c'est on met les tables à disposition. Vous êtes accompagné par un peintre et puis on vous explique les balbutiements de la peinture. Donc comment peindre, voilà, qu'est-ce que c'est qu'une couche d'après, pourquoi en poser une, etc. Il y aura cette année cette table. Elle sera là, voilà, elle sera animée par la Forge Ludique, mais pas que. Il y a deux types de nouvelles activités peinture. Il y a le défi du roi Ghoul, on l'a nommé comme ça, qui sera animé par Sylvain de la chaîne YouTube The Squiggered, dont je vous recommande les tutoriaux si jamais vous voulez mettre au jeu de figurines. C'est une très bonne chaîne YouTube, The Squiggered. Et donc il va venir animer un atelier où on proposera aux gens de suivre un pas à pas pour faire une armée collaborative. C'est-à-dire qu'on va vous proposer de peindre des ghouls, et au plus on aura de ghouls, au plus l'armée sera nombreuse. Alors évidemment, vous ne repartez pas avec les ghouls, puisqu'ils vont constituer une armée. On vous offrira une autre figurine en dédommagement pour que vous continuez l'expérience chez vous, puisque, je le rappelle, c'est l'idée principale de la Forge Ludique. Et donc, tout cela constituera une armée, qu'on prendra en photo à la fin du Hammer Time, qui ira en dotation au centre social pour animer des temps forts pour les jeunes, pour qu'ils puissent s'initier au jeu de figurines. Au centre social Vauban et Kerm de Lille. Donc ça, c'est le deuxième défi. Et après, troisième élément pour la peinture, on aura les Canonniers, donc une association partenaire du Hammer Time, qui sera juge d'un concours peinture en version open, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de podium, c'est on vous dit où vous en êtes, voilà. On vous donne des axes d'amélioration. Il y aura certainement des petites gratifications pour les gens qui sont venus montrer des belles pièces, mais on a tout niveau attendu et vous êtes invité donc à venir déposer des escouades, des gros monstres, des personnages individuels ou des bustes, peu importe la figurine que vous souhaitez nous montrer ou la faire juger. Les experts des canonniers donneront des orientations et vous donneront un peu le comment améliorer votre peinture pour le régal des yeux et des rétines de tout le public durant tout le week-end. Voilà. Donc le public sera invité à regarder tout ça, ça sera sous vitrine, sur l'estrade.
C'est souvent impressionnant, parce que vous êtes souvent d'ailleurs avec les canonniers sur les événements, lorsqu'on voit ces stands de figurines en démonstration comme ça, il y a vraiment de magnifiques peintures, et ça donne envie tout en décourageant.
C'est tout rien.
De rentrer dans cette aventure. En tout cas, vous rentrez chez vous, vous regardez un peu les tutos, comment est-ce que c'est fait, et vous êtes toujours impressionné. Et c'est vraiment une belle passion qu'il faut découvrir. Donc, on le rappelle, le 22, le 23 octobre, c'est à Lille, au gymnase, place Sébastopol, de 10h à 19h, c'est le Hammer Time. Bookez sur votre agenda, si vous ne l'avez jamais fait, c'est le moment. En plus, il y a de belles tombolas.
Oui. Il y en aura cette année. On sera là aussi.
Est-ce qu'il y a encore les petits jeux lorsqu'on prend une consommation?
Alors, il y aura des animations au bar, c'est programmé. Après, te dire de quelle nature, c'est pas encore complètement fixé. Ça, c'est des choses qu'on décide un peu en dernière minute en fonction de ce qu'on a comme dotation, partenaire. Par contre, on retrouvera le parcours enfant, le parcours de l'enclume. Donc, le parcours de l'enclume, on remet aux plus jeunes un petit billet à charge pour eux sur les 70 tables en démo de trouver 9 enclumes oranges dissimulées. C'est des enclumes qui font 5 cm de haut. Et on leur remettra à la sortie, s'ils ont découvert suffisamment d'enclumes, une médaille comme quoi
c'est ils ont réussi à chasser. C'est vraiment les une enclumes. Idée de génie, cette chasse aux enclumes, ça permet aux grands d'être tranquilles, de quelquefois regarder les tables.
Voilà, ouais, on a mis ça en place au deuxième et ça a eu un succès incroyable. Donc voilà, donc le parcours de l'enclume sera là, il y aura des jeux au bar, te dire de quelle nature, je pense que ce sera encore la même nature que les années précédentes. On aura des tombolas, on a été bien soutenu par un distributeur français qui s'appelle Légion Distribution, dans ce sens-là. On attend qu'Essen se soit terminé. Il est en train de fermer ses portes, ce gros salon en Allemagne, pour contacter les distributeurs qui avaient un peu la tête dans le guidon pour dire « Nous aussi, on est là. » Et on espère vous faire profiter d'un maximum de choses. Quoi. Voilà.
un grand merci, Greg, d'avoir participé à cette émission.
Merci à vous.
On se retrouve très prochainement. Tu es toujours le bienvenu, même s'il n'y a pas de Hammer Time, pour parler de figurines, d'impressions. Dominique.
Le Hammer Time, c'est dans deux semaines, mais la semaine prochaine, si vous avez envie de jouer, il y a un salon auquel je vais tous les ans. C'est le salon À Toi de Jouer qui est à Amiens, dans le cadre de la foire de Picardie, au Mégacité à Amiens. C'est le fameux salon dont je parle. Tu es au salon du jeu et à côté, tu as le salon du vin, du chocolat, etc. Donc tu passes de l'un à l'autre. C'est la même entrée pour tout le monde, c'est très sympa à faire. Donc c'est à Amiens le week-end prochain, les 15 et 16 octobre.
On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Heureusement en France. On se quitte avec le trio SR9.
Je crois que tu parlais des gnous, mais non, ils sont que deux.
Bah non, les gnous seront là juste après nous, donc restez à l'antenne pour parler du logiciel libre. On se quitte avec la reprise de Trio SR9 avec Happy.
Happy.
Merci à vous.
Hop. Merci Greg. Hammer Time, 22-23 octobre. Sunshine, she's here, you can take a break. Balloon that go to space with the air, like I don't care, baby. By the way, because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what a happiness is to you. Give me all you've got, don't hold it back. Well, I should probably warn you, you'll be just fine. No offense to you, but don't waste your time. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Levels too high, bring me down. I can't nothing. Bring me down. Bring me down. Bring me down. I can't nothing. Bring me down. Levels too high. Bring me down. I can't nothing. Bring me down. 'Cause I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Bring me down, my level's too high. Bring me down, I can't nothing. Bring me down, 'cause I'm clapping on.